Bienvenue à tout le monde, y compris à distance d'ailleurs. Et puis, puisqu'on est rentré dans un monde où on fait des choses de manière hybride, comme on dit maintenant, quasiment tous les jours, c'est un peu curieux. Mais bon, ma foi, voilà. En tout cas, ça nous permet de réunir des intervenants qu'on aurait eu du mal à regrouper sur cette même journée. Merci à tous d'avoir accepté d'intervenir à cette journée. Sur la thématique de la boutique des sciences, vous l'avez vu dans le programme tel qu'on l'a annoncé, tout le monde ne connaît pas ces boutiques des sciences. L'idée est d'initier ici aujourd'hui une réflexion. Alors, ça part de la MSH Val-de-Loire pour plusieurs raisons, parce que, mais d'idée, ouais, pardon, c'était d'être plus clair. D'initier une réflexion sur ce que pourrait, sur l'opportunité qu'il pourrait y avoir à s'engager dans la construction d'une boutique des sciences à Tours et plus largement dans la région Centre-Val de Loire. Ce point de départ se fait à la MSH Val de Loire, justement pour ce périmètre régional, puisque la MSH a trois tutelles, le CNRS et les deux universités de Tours et d'Orléans. Qui lui donne cette couverture régionale qui correspond à la région Centre-Val de Loire, région administrative, qui est un espace dans lequel, dans notre monde académique, il n'y a pas, ou il n'y a plus, et en tout cas, on est sans doute une des rares régions où il n'y a plus aucune structure type commune ou autre qui fédère l'ensemble des établissements de recherche. Les établissements de recherche, il y a, je l'ai dit, CNRS, ces deux universités, mais il y a aussi présent dans la région de manière importante INRAE, l'INSERM, le CEA, l'INSA, le BRGM. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour, mais c'est déjà pas mal, quoi. Donc, il y a un potentiel de recherche qui est là, qui existe et qui est fort. Par ailleurs, alors, il y a différentes structures où ces établissements se retrouvent autour de la table très régulièrement sur des questions différentes, mais on n'a pas d'organisation qui les réunisse de manière institutionnelle. Par ailleurs, on est dans une période où on traverse différentes crises successives d'ordre totalement différents, mais malgré tout, on le sait bien, dans notre monde complexe, et ceux qui ont travaillé sur les systèmes complexes d'une manière ou d'une autre le savent aussi, avec des relations évidentes entre ces crises, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sanitaires, comme celle du Covid, mais qu'elles soient sociales aussi, ou de plein d'autres registres. Et à chacune de ces crises, pour une raison ou une autre, sur un thème ou sur un autre, on fait le constat d'une forte défiance marquée, parfois sur des aspects différents. Il en était encore question dans un débat sur France Culture ce matin, une forte défiance vis-à-vis du monde de la recherche. Et dans le même temps, si on en croit un certain nombre d'enquêtes d'opinion, en tout cas en France, une grande majorité qui fait confiance à ce monde de la recherche. Donc, voilà, une ambiguïté de ce point de vue-là, entre ce que l'on entend ou pas. Alors, quand je dis défiance, il y a bien sûr tout ce qui est conspirationniste, complotisme, etc. Mais il y a aussi une défiance plus quotidienne, on le voit par rapport à la crise sanitaire, ne serait-ce que sur la question de la vaccination, par exemple. Des débats, mais sur le changement climatique, on pourrait trouver plein d'autres sujets qui sont du même ordre. Tout cela nous amène à dire que ce que l'on sait faire dans notre monde académique, toutes disciplines confondues pour le coup, c'est évidemment travailler dans nos disciplines de recherche. Ce que l'on sait faire aussi, c'est transmettre les résultats de cette recherche. Alors, on le fait, quand je dis on sait le faire plus ou moins bien, mais on le fait de manière récurrente avec tous les organismes qui se sont mis en place de diffusion scientifique, de diffusion d'informations scientifiques et techniques. On le fait en particulier, je pense à des événements très grand public qui sont récurrents, comme la Fête de la Science, qui est un événement national qui rencontre son public chaque année de manière forte. La MSH est investie dedans depuis de nombreuses années pour avoir renouer cette année avec une version présentielle d'un village des sciences à l'occasion de la fête de la science, c'est plusieurs milliers de personnes à chaque fois qui sont présents, qui viennent et qui sont très demandeurs de cet échange et de cette relation. Et dans le même temps, ce que l'on fait, on entend parler diffusion scientifique, on sait faire des conférences, on sait faire plein de choses, et puis comment, à un moment donné, l'interrogation est comment on peut arriver à répondre à un certain nombre de demandes sociales qui arrivent de la société civile et qui interpellent le monde de la recherche. Et donc, c'est là où peut-être on est moins bien outillé collectivement, me semble-t-il, à l'exception notoire de ces expériences des boutiques des sciences dont c'est la vocation. Et dans la démarche que l'on initie ici, c'est ce qui nous intéresse, c'est-à-dire de voir comment peut se construire cette interface entre la demande sociale et ce monde scientifique, et comment on peut, à partir de là, arriver à co-construire, c'est bien ce qui est un des objectifs de ces boutiques des sciences, à co-construire des objets de recherche et puis, pourquoi pas, des projets de recherche. C'est différent d'une démarche que l'on sait faire également, alors là aussi dans des dispositifs différents, des questions de transfert. C'est-à-dire qu'on a des centres sous des formes différentes, mais des centres, des laboratoires, des unités, des bureaux d'études qui font du transfert de ce qui se fait dans les laboratoires pour répondre à des demandes, là aussi, mais en fait qui fonctionnent un peu comme des bureaux d'études, comme des prestataires. Et ce n'est pas exactement la même chose. Là, on parle vraiment d'une co-construction d'objets à partir de demandes qui émanent de la société civile. À partir de là, ça ouvre plein de questions qui, pour nous, sont assez neuves. C'est comment on est à l'écoute de ces demandes, comment on recueille ces demandes, comment on les accueille, comment on engage des processus de co-construction, etc., etc., et comment peuvent fonctionner ces boutiques des sciences. Alors, j'avais mis dans le programme en référence un ouvrage qui résume un peu, enfin que moi j'ai trouvé très bien, mais les intervenants diront ce qu'ils en pensent, pour résumer l'histoire de la construction de ces boutiques des sciences, et qui font d'ailleurs référence à plusieurs de celles qui seront présentées aujourd'hui. Il me semble intéressant de remettre un peu cette perspective de construction qui date du début des années 80, si je ne me trompe pas, et puis qui a connu deux vagues, en gros, avec un échec, en tout cas en France, pour les premières, puis un redémarrage, et là encore avec des étapes successives, évidemment. Aujourd'hui, on est, en tout cas pour le périmètre français, dans une dynamique où le ministère lui-même annonce des programmes et des appels à projets « Science avec et pour la société ». Cet intitulé qu'on trouve assez nouveau, me semble-t-il, « Science avec et pour la société » dans les dispositifs français, c'est en fait la traduction littérale du titre en anglais de programme lancé au début des années 2000 par l'Europe. Donc là, il y a un décalage que je ne m'explique pas non plus, mais enfin qu'on peut expliquer de plein de raisons, mais qui est également intéressant. C'est-à-dire qu'on a l'impression de découvrir maintenant des choses qui sont lancées par l'Europe, dans laquelle on est quand même un petit peu impliqué, et qui montre ce décalage. Donc voilà, c'est un ensemble de questions qui sont complètement ouvertes, qui me semble être intéressant de mettre en discussion autour de la table aujourd'hui. Alors, comme on n'est pas très nombreux, je pense que ça peut être utile à tout le monde qu'on fasse un rapide tour de table pour que chacun sache un peu qui est là, sachant qu'il y a plein de gens qui étaient intéressés, qu'on a monté cette journée rapidement et qu'on est peu nombreux, mais que beaucoup sont à l'écoute de ce qui va se passer. Donc, de ce point de vue-là, les quatre interventions que l'on aura vont être captées avec le système de visio, de manière à ce que les collègues, alors c'est diffusé en même temps, mais de manière à ce que d'autres collègues puissent y revenir et réécouter ensuite. On n'enregistrera pas les débats parce que c'était compliqué dans le dispositif, mais on aura l'occasion d'échanger avec les collègues. J'ai moi-même, en préparant cette journée, pu bénéficier d'enregistrements comme ça de certaines de vos journées à droite ou à gauche et qui sont extrêmement utiles. Donc, je pense que c'est important qu'on puisse le faire à notre tour. On a essayé de mobiliser des collègues. Alors, certains nous rejoindront cet après-midi, dont des vice-présidentes de l'université de Tours à la recherche, peut-être dès ce matin d'ailleurs, je ne sais pas si elle va arriver ou pas, et à la valorisation. Non, c'est pas exactement une relation. Comment?
Partenariat.
Au partenariat, voilà. Il me semblait bien que je me trompais pour Selma qui nous rejoindra cet après-midi. Donc ça, c'est important. Peut-être une vice-présidente aussi sur la question de la relation sans société de l'Université d'Orléans qui suivra à distance selon sa disponibilité. Et puis, on a essayé de solliciter aussi des partenaires d'un certain nombre de collègues chercheurs de nos unités qui sont dans le monde associatif avec qui il y a déjà des relations. Alors, est-ce qu'il y a déjà des projets de recherche qui sont co-construits avec eux? Je ne suis pas sûr qu'ils soient disponibles, mais nous rejoindra cet après-midi Maude Le Floch, qui est la directrice d'un centre, d'un partenaire culturel, en fait, qui est le pôle art et urbanisme. Et qui travaille à l'interface artistique, monde urbain, etc., et avec qui on a d'ores et déjà pas mal d'échanges et de projets communs, et qui est également intéressé pour voir comment on peut construire des choses. Donc on part de rien, non pas tout à fait de rien, parce qu'on a des expériences diverses et variées, mais on part vraiment du début, on est très à l'écoute. Est très intéressé par ce que les interventions donc sur Montpellier, Nice, Lille et Lyon peuvent nous apporter à la fois dans votre histoire, dans la trajectoire de vos boutiques respectives, dans la manière dont vous les avez construites, dans les choix que vous avez faits, qui sont différents les uns des autres, je pense, et puis de ces échanges. On a le temps à chaque fois pour des présentations qui vous permettent de rentrer dans ce détail et puis d'échanger au maximum. Donc, merci encore.
Je vais vous présenter donc Trait d'Union, qui est l'atelier sciences-société de l'AMSH Sud depuis environ 3 ans. Donc moi, j'ai été recrutée à toute fin 2017, en novembre 2017, pour justement créer ce dispositif. Donc moi, je suis ingénieure agroéconomiste de formation dans le développement des pays du Sud. Et en fait, enfin, mes premières expériences professionnelles ont toujours été un petit peu à cheval entre la recherche et le développement. Donc, dans le milieu du développement, dans des ONG à l'étranger ou en France aussi, dans les milieux associatifs français, avec souvent voilà, un lien avec la recherche, donc soit comme chargée de recherche dans une asso, soit voilà, quand j'ai fait de la recherche avec par exemple le CIRAD, donc dans le développement agricole, voilà, des recherches qui sont dans l'agronomie historiquement partenariale, enfin souvent partenariale, collaboratif de plus en plus, mais en tout cas au moins souvent partenarial dans la recherche avec des paysans notamment et des organisations paysannes. Donc voilà, tout ça m'a amené du coup à être recrutée à la MSH Sud en 2017 pour organiser les Assises nationales sciences-société. Et suite à ça, du coup, il y a eu une volonté de pérenniser en fait la volonté de la MSH d'organiser enfin en tout cas de faciliter les interactions sciences-société sur le territoire de Montpellier et plus largement de la région avec la création d'un dispositif. Donc ça, on va revenir sur ça dans l'historique. Rapidement, nos principales missions, les principales missions de Trait d'Union. C'est d'abord faire coopérer ces trois types d'acteurs dont on va très souvent parler. Donc à la fois la communauté scientifique, l'enseignement supérieur, donc la communauté étudiante, et les acteurs du territoire. Vous verrez que dans les acteurs du territoire, il y a aussi tout un débat sur quelles sont nos cibles, quels sont nos publics, est-ce qu'il s'agit des associations, est-ce qu'il s'agit des collectivités, est-ce qu'il s'agit, enfin, quelle place pour les organisations aussi du monde privé à but lucratif, donc de l'économie sociale et solidaire ou pas, enfin, voilà, et toutes ces réflexions-là qui se posent. Mais en tout cas, on peut les englober dans ce, voilà, ce grand. Enfin, voilà, derrière les acteurs du territoire. Et après, on peut spécifier en fonction des dispositifs, des enjeux de chacun, etc. Donc, déjà, faire coopérer ces trois communautés qui n'ont pas beaucoup d'espace pour travailler ensemble. C'est la première, voilà, c'est notre cœur de mission. Nous, à la MSH Sud, on a ancré ce dispositif Trade Union dans le projet scientifique de la MSH Sud, qui, voilà, vous connaissez peut-être l'acronyme de Sud, qui est les sciences et la société unies pour un autre développement. Donc, l'idée est d'ancrer la recherche dans les grands défis sociaux et environnementaux. Donc, on n'est pas, on n'a pas une entrée thématique autour de l'environnement, la biodiversité, la santé ou autre. On essaye de faire du lien entre les défis sociaux et environnementaux et d'aborder voilà ces questions comme ça a été dit de responsabilité sociale de la recherche, surtout à notre époque qui demande d'accélérer un peu les changements. Et donc notre mission c'est d'incuber des projets donc qui sont à cette interface. Donc, on se définit, on a assez rapidement compris que, en fait, la phase d'incubation et que le terme d'incubateur était vraiment parlant par rapport à notre projet. Donc, on se définit comme un incubateur de projets sciences-société. Donc, on s'adresse à ces trois publics que j'ai évoqués. Donc, concernant la société civile, nous, on a fait le choix aujourd'hui, après 3 ans d'expérience, de se centrer principalement sur le monde associatif, donc sur des associations, mais aussi des collectifs citoyens qui ne sont pas forcément formés en statut associatif, ou des collectifs professionnels, donc des syndicats ou des organisations de professionnels, qui vont pouvoir... on va peut-être revenir... Là, je vais passer un petit peu, on en reparlera dans la discussion, mais sur les bénéfices qu'ont chaque partie prenante à s'impliquer dans ces projets. Donc, c'est compliqué quand on s'adresse à des publics aussi diversifiés de réussir à communiquer sur l'intérêt du dispositif pour chacun. Si on a une entrée trop centrée vers l'intérêt pour la recherche ou l'intérêt pour les étudiants ou les assos, du coup, on va passer à côté en fait, de ce qui peut accrocher les autres types de publics. Donc, ça, c'est voilà, je précise comme ça, c'est un. Il faut bien avoir en tête qu'on a trois cibles dans les messages qu'on passe et dans la façon dont on travaille et qu'il faut toujours prendre soin de s'adresser spécifiquement à chacune de ces cibles qui ont chacune leur particularité, forcément. Donc, les étudiants et les chercheurs ont tous un intérêt spécifique pour s'impliquer dans le dispositif, mais on pourra revenir dessus par la suite. Donc, pour comprendre Trade Union, je vais vous présenter un peu notre méthode, qui est une méthode en trois axes. Donc, ces trois axes, ils sont assez structurants pour nous dans notre façon de travailler et dans les activités qu'on développe. Donc, ces trois axes, en fait, qui reprennent un petit peu le cycle d'un projet. Donc, il y a toute la partie émergence des sujets. Donc, on parle beaucoup avec les boutiques des sciences de demande sociale. Et nous, on s'est posé la question de comment justement accéder à ces demandes sociales. Parce qu'on a travaillé aussi avec d'autres boutiques des sciences, avec d'autres dispositifs quand on s'est créé. Et du coup, comme on est les plus récents finalement sur le territoire français, on a pu bénéficier de tous ces retours d'expérience. Et on a fait un partenariat, nous, avec. On a décidé de faire ce partenariat avec l'association Résolis, donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, qui a développé un observatoire des initiatives en ligne, que je vais vous présenter par la suite, qui permet de valoriser des initiatives sur les territoires en lien avec des enjeux sociaux et environnementaux. Et nous, on, en fait, ce qu'on a souhaité, c'est que toutes les associations qui vont s'adresser à nous puissent être mises en lien aussi et valorisées dans ce qu'elles font, d'innovant. On a une méthode où on a des étudiants qu'on encadre qui sont un peu nos ambassadeurs, qui vont voir de façon proactive les organisations du territoire et qui font des enquêtes auprès d'elles pour documenter leurs initiatives, donc ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, quelles difficultés elles rencontrent, identifier un peu leurs besoins, etc. Et donc, du coup, pouvoir valoriser toute cette connaissance du terrain dans le monde universitaire et aussi évidemment documenter leurs besoins de recherche. Donc du coup, voilà, on recense en fait les besoins de recherche de façon un peu proactive comme ça, en allant vers des organisations qui spontanément ne nous connaîtraient pas et ne seraient pas venues vers nous. Mais bien sûr, on accueille aussi des demandes plus on avance dans le temps et plus on est connu et plus le bouche à oreille fait son effet et on a des demandes spontanées ou qui nous viennent par réseau. Voilà. Donc, on a un peu ces deux façons-là d'identifier les sujets, les demandes sociales qui existent sur le territoire. Et ensuite, on rentre dans une phase d'incubation de projets. Donc là, on a des médiateurs qui vont retourner voir ces associations qui nous ont adressé leurs demandes et rentrer dans une phase d'incubation. Donc, on va déjà essayer de mieux comprendre leurs demandes. Elles sont très différentes, avec des stades de maturité très différents aussi. Donc, on affine avec eux leurs demandes. Voilà, il y a tout ce travail de début de l'incubation, c'est-à-dire on essaye de comprendre déjà quelle est la demande. Et ensuite, on met en lien avec des acteurs universitaires ou des étudiants, ou voilà, on cible les personnes qui on fait vraiment ce rôle de passerelle. Et une fois qu'on a un petit collectif de projets qui se met en place, là, on rentre dans un processus vraiment de concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, des fois, c'est un étudiant et un chercheur et l'association. Parfois, il y a plus d'organisations qui rentrent dans une dynamique un peu plus collective, vraiment une dynamique de concertation collective. Et là, avec des méthodes participatives, on accompagne ces différentes parties prenantes à construire ensemble un projet. Donc, ça va de construire les objectifs, construire la problématique de recherche, construire la méthode, le planning, les financements, etc. Donc voilà, tous ces sujets-là sont abordés dans une dynamique de co-construction. Et vous verrez que c'est très variable d'un projet à un autre. Ça peut prendre 3 mois comme ça peut prendre 2 ans. Ça dépend vraiment des sujets et des collectifs. Et une fois que le projet est mis en œuvre, là, on continue de l'accompagner avec une posture de tiers veilleur. Donc le projet à ce moment-là il est porté par souvent co-porté par l'association et la recherche, on va dire, pour faire simple, une association et un chercheur, mais des fois c'est plus complexe, ça peut être des organisations collectives comme je disais, mais on va faire ça pour simplifier. Donc il est vraiment co-porté. Donc, nous, on n'a plus de rôle d'animation. Le rôle, il est vraiment, à ce moment-là, on a construit durant la phase d'incubation une légitimité à être dans cette posture de faciliter la participation et l'équité dans les projets. Et donc, à ce moment-là, on devient tiers-veilleur. Donc, on suit le projet, on prend un petit peu de recul quand même, mais on le suit pour s'assurer qu'il y a bien toujours une dynamique équitable dans la façon dont les décisions sont prises et les actions sont mises en œuvre. Voilà, donc ça, c'est notre... C'est pour notre méthode en 3 axes. L'idée, c'était de revenir un peu sur les 3 axes maintenant. Alors, je me dis qu'on pourra peut-être revenir là-dessus dans les échanges, voir comment est-ce qu'on fait émerger ces demandes sur le terrain et comment fonctionne cet observatoire. Peut-être vous le présenter aussi, sans rentrer forcément dans les détails tout de suite. Là, peut-être pour préciser un peu cette phase d'incubation. Après, je vais préciser comment on le fait, avec qui on le fait, hein, mais par rapport à cette phase-là, qui est notre cœur de mission, en fait, hein, l'incubation de projet. Peut-être que c'est plus clair comme ça, donc en schématisant un petit peu. Donc, on a la demande sociale qui nous parvient. Et là, on accompagne à la fois toutes les parties prenantes des projets. Et comme le schéma le montre, on peut parfois faire appel à des étudiants, parfois non. Parfois, on va avoir besoin de faire une concertation élargie avec d'autres parties prenantes. Donc, je donnerai des exemples après avec les projets, avec quelques exemples de projets. En tout cas, l'idée est de faire travailler tous ces acteurs ensemble, mais c'est pas forcément, c'est pas normé, ça peut être l'un ou l'autre, tout dépend vraiment de, de ce qu'appelle la demande sociale et les objectifs initiaux des organisations, enfin des associations. Ensuite, on construit donc ce projet collaboratif, et là, vous avez un peu une typologie rapidement de ce qui peut être fait, en tout cas de ce que nous, on peut accompagner. Parce que nous, voilà, du coup, on a fait ce parti pris de la complexité. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas évident tous les jours. C'est-à-dire qu'on s'adapte vraiment à la demande. Et on s'adapte à la complexité des demandes, on s'adapte aux contraintes des acteurs, etc. Donc, en fonction, en fait, de ce qu'on va comprendre de la demande, on va avoir différents types de projets. Donc, je crois que... Voilà, ça, c'est ce qu'on retrouve sur notre... En gros, en fonction... Donc, nous, on a vraiment fait ce choix de ne pas être forcément que sur de la recherche, dans le sens où notre objectif, finalement, qui dépasse celui de produire des connaissances, c'est l'objectif de décloisonner et de faire passerelle entre le territoire et l'université. Et pour ça, finalement, ça ne passe pas forcément par la recherche, par le fait de produire des connaissances. Il y a des boutiques des sciences qui sont vraiment sur un modèle de service à la communauté plus que de recherche. C'est-à-dire que le lien, il est fait avec des étudiants qui vont, dans le cadre de leurs travaux pratiques, faire des travaux pratiques sur la base de besoins d'acteurs du territoire qui n'ont pas forcément les moyens de faire appel à des bureaux d'études, par exemple. Voilà, donc on est vraiment sur des petites structures à but non lucratif qui peuvent, du coup, faire appel à des étudiants pour des objectifs très, très pratico-pratiques. Nous, on a fait, du coup, un système hybride où on accueille, en fait, toutes les demandes. Donc, on accueille les demandes qui ont pour objectif de produire des connaissances. Donc, si une association se pose des questions et qu'il est nécessaire de produire de nouvelles connaissances pour y répondre, là, on peut proposer des projets de recherche, donc soit avec des étudiants qui vont faire leur stage de Master 2, le plus souvent, mais ça peut être aussi en Master 1, où il y a des projets, des stages de recherche ou des mémoires de recherche, mais voilà, disons Master 2, ou aussi accompagner l'incubation de projets de recherche. Donc, en cherchant des financements, en montant des projets, etc., etc., en échouant, en recommençant l'année suivante. Donc, c'est des démarches qui peuvent s'inscrire sur plusieurs années. Parfois, voilà, dans les demandes sociales, on voit qu'il n'y a pas nécessairement besoin de produire des connaissances. Ça peut être des besoins d'accompagnement scientifique. Par exemple, dans le comité de pilotage d'une initiative, on a besoin d'un éclairage un peu scientifique, d'une expertise sur un sujet. On peut mettre cette association en lien avec un scientifique qui aura envie de participer à l'initiative, donc plutôt comme un accompagnement, ou des étudiants qui vont, comme je le disais, faire des travaux pratiques, des travaux de groupe, des travaux dirigés pour répondre à une question ou pour développer. Là, on a fait, par exemple, développer des outils informatiques, développer un business plan, enfin voilà, des choses qui servent les étudiants dans leur formation et qui servent en même temps concrètement des acteurs de la transition écologique et solidaire. Et des fois, on se rend compte aussi que certaines associations nous posent des questions en voulant faire de la recherche, puis finalement, les connaissances existent déjà. Donc là, on est plutôt sur de la médiation scientifique, c'est-à-dire que on va proposer à des étudiants de faire une synthèse bibliographique ou un projet de médiation scientifique. Et aussi la possibilité de faire des ateliers, tout simplement, des séminaires, des ateliers de partage de savoir, où les scientifiques et les acteurs associatifs peuvent déjà se rencontrer, échanger, donc sans qu'il y ait forcément une problématique et l'enjeu de produire des connaissances. Mais plutôt des enjeux de partage des savoirs qui peuvent parfois déboucher sur des projets collaboratifs, des projets de recherche. Mais dans un premier temps, nous, on a fait comme ça un atelier autour des changements climatiques. On nous posait des questions sur les changements climatiques. Bon, les données existent. Après, elles sont très peu accessibles. C'était pour des organisations de développement agricole. Et c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver entre les données des météorologues, le GIEC, des trucs qui sont à l'échelle mondiale, alors que c'était une demande qui était très territorialisée sur des micro-régions dans la région Occitanie. Donc voilà, ça demande un travail de médiation scientifique, et donc on a fait un atelier comme ça. Et aussi un étudiant qui avait fait son stage là-dessus. Voilà, et ensuite, bah, l'axe 3, bon, bah, ça, voilà, je l'ai précisé, mais du coup, une fois qu'on a toutes ces parties prenantes qui sont ensemble dans la phase de réalisation du projet, nous, on est un petit peu au centre, comme ça, tiers-veilleurs, en facilitant la dimension participative des projets. Donc, pour rentrer un peu, peut-être que c'est un peu flou, là, ce que je vous dis, donc, du coup, pour donner quelques exemples de projets, alors, ça, c'est sur les projets qui ont été réalisés. Alors, la diapo n'est pas super à jour parce que là, on a eu toute une nouvelle vague de projets. Enfin, une nouvelle vague, il y en a, je crois, 10, un peu moins, qui se sont lancés il y a à peine un mois. Donc, je n'ai pas intégré ça à la diapo, mais de toute façon, on ne va pas les passer un par un. C'est pour donner des exemples et pour voir justement cette diversité aussi de formats. Alors, dans nos projets pilotes, parce que nous, on s'est lancé en 2017 avec, enfin en 2018 plutôt, en 2018, on a lancé deux projets pilotes, donc on a accueilli deux demandes d'associations très différentes l'une et l'autre. Donc la première demande, c'était la demande d'un collectif d'associations autour de l'agroécologie paysanne. Donc c'est un collectif, je crois qu'il y avait 7 associations qui étaient déjà en lien dans le cadre d'un travail de concertation avec la métropole de Montpellier pour définir les objectifs de la politique agricole et alimentaire de la métropole. Et bon, il y a eu, disons, des soucis politiques, ce qui fait que ce collectif n'avait plus d'interlocuteur pour travailler ces questions-là de prospective, parce qu'en fait, c'est ce qu'amène aussi, c'est ce dont ils se sont rendus compte en travaillant avec cette collectivité, c'est l'intérêt de la démarche prospective. Et donc, ils se sont tournés vers nous pour continuer ce travail. Et donc, on posait cette question très, très large et très, très floue qui était, voilà, nous, on veut comprendre comment est-ce qu'on peut développer l'agroécologie paysanne comme le modèle dominant dans 30 ans. Donc, voilà, il y a des milliers de chercheurs qui bossent sur cette question. Donc, c'est quand même un peu compliqué de l'aborder comme ça. Donc, du coup, voilà, on a commencé un travail d'incubation de ce qui pourrait être un projet de recherche. Donc, ça a mis du temps. Là, on est en train de lancer le projet maintenant. La demande, on l'a accueillie en 2018, donc ça fait vraiment 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Donc au début, on a fait des ateliers avec ce collectif, on a invité des chercheurs qui nous semblaient pertinents du point de vue disciplinaire, du point de vue de leur champ d'expertise, etc. Donc voilà, il y a eu toute cette phase d'émergence. Et petit à petit, on a pu voilà, tirer les fils, préciser des choses. Donc il y a 2 stages qui ont été réalisés. Il y a un stage de Master 2, donc avec une première, on pourrait l'appeler aujourd'hui une étude exploratoire sur l'agroécologie paysanne dans la région. Donc voilà, un peu pour définir un peu mieux ces termes-là et ce que le collectif pouvait mettre derrière ça. Donc documenter davantage ça, à la fois au niveau quantitatif et puis et comprendre un peu la définition de ce qu'est l'agroécologie paysanne, qui est quelque chose qui n'est pas, une définition qui n'est pas stable en fait. Donc voilà, il y a eu un peu une phase exploratoire avec 2 stages et puis un autre stagiaire qui est allé justement auprès de chacune de ces associations du collectif pour mieux comprendre leurs attentes vis-à-vis de ce projet et leurs problématiques en tant qu'organisation. Et donc à partir de là, on a avancé. Voilà, ça a permis d'affiner encore les choses, donc ça a mis un certain temps. Donc là, c'est moi qui accompagnais les projets pilotes, c'est moi qui les ai accompagnés en tant que chargée de projet. Aujourd'hui, on a un réseau de partenaires que je vais vous présenter qui accompagne les projets. Je ne suis plus la seule à le faire. Mais à ce moment-là, les projets pilotes, donc c'est moi qui les ai accompagnés. Donc suite à ces stages, voilà, on a pu affiner les choses, rajouter des nouveaux partenaires qui étaient davantage pertinents par rapport aux résultats qui avaient été montrés, etc. Et donc, on a répondu à un appel à projet donc, que vous connaissez sûrement ici, donc l'appel à projet CO3. On avait répondu à un CO3 émergent à ce moment-là, parce qu'on n'était encore pas assez solide pour être sur un projet vraiment de recherche, que nous n'avions pas eu. Bon, l'appel est très concurrentiel, on a été très bien noté, mais voilà, on l'a pas eu à ce moment-là. Donc ça, c'était en 2019. Et en fait, du coup, on a continué à incuber ce projet, donc pas dans le cadre du CO3 émergent, mais dans le cadre de Trade Union, de la boutique des sciences, c'est-à-dire qu'on a continué à accompagner l'émergence de ce projet. Donc, on a refait des ateliers, continué cette phase de ce travail de co-construction ensemble. Et on a représenté un projet donc consolidé cette fois, cette année, qu'on a remporté. Et donc, le projet va démarrer là, bientôt. Donc, voilà, c'est un peu pour montrer un exemple d'incubation. Ça peut être lent. Et là, on a vraiment tout un réseau de laboratoires. Enfin, on a un partenariat très solide parce qu'on a 3 ans, du coup, d'émergence derrière. Donc, on a déjà une phase exploratoire. On a un partenariat qui est solide parce que on se connaît bien. Et puis, on a pu vraiment faire un partenariat qui tient la route par rapport aux objectifs du projet, donc c'est sur l'échelle de la région, l'échelle régionale. Donc, on a des relais locaux dans chaque région, chaque territoire d'expérimentation, avec une interconnaissance déjà. Voilà. Donc, c'est un gros partenariat pour un financement pas si énorme finalement, mais on fait avec ce qu'on peut. L'enjeu, c'est de développer une prospective citoyenne portée par un réseau associatif et un réseau de chercheurs. Donc ça, c'est pour notre premier projet pilote. Notre deuxième, j'ai pas de diapo hein, pour présenter les projets, donc j'en parle au fur et à mesure. Le deuxième projet pilote qu'on a accueilli en 2018 aussi, c'était une demande qui nous venait de la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux d'Hérault. Autour de la mortalité des oiseaux dans les parcs éoliens. Donc ça partait d'un constat. Donc dans les parcs éoliens industriels, il y a de la mortalité aviaire, alors que des dispositifs existent pour effaroucher les oiseaux et éviter la mortalité. Avec des dispositifs d'effarouchement les éoliennes peuvent s'arrêter aussi quand elles détectent des oiseaux qui rentrent dans un certain champ, etc. Donc, il y a des choses qui existent, mais la LPO faisait quand même des constats sur le terrain de mortalité, voire de mortalité grave, parce que ça s'applique à des espèces protégées. Donc, c'est un gros enjeu, en fait, de protection de la biodiversité, puisque sur certaines espèces protégées, le fait de perdre quelques individus peut mettre carrément en péril la survie de l'espèce. Donc, ils sont venus nous voir avec ce constat en disant c'est simple, tout le monde dans la filière éolien et biodiversité fait ce constat, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord pour avancer sur cette question-là, parce qu'on a les opérateurs éoliens qui ont leur... en fait, chacun a des intérêts et des intérêts très très forts, parce qu'on a à la fois des enjeux de biodiversité qui sont très forts et des enjeux économiques pour les parcs éoliens qui sont aussi très forts, puisque du point de vue réglementaire, on peut être amené à fermer des parcs éoliens, donc ça représente des millions d'euros de pertes pour les entreprises. Donc c'est des gros enjeux, et donc la LPO est venue nous voir avec ça. Donc il y a une deuxième étape où on a associé la DREAL, donc l'autorité environnementale, qui était indispensable pour traiter aussi de ce sujet. Donc on a eu ce binôme avec la DREAL, donc l'État, et une association, avec qui on a commencé à travailler un projet. Et petit à petit, on s'est rendu compte, donc c'était aussi moi qui était chargée de l'accompagnement de ce projet, donc en 2018. Petit à petit, donc ça a mis du temps, le temps de comprendre bien les enjeux, etc. Donc il faut être sacrément généraliste, hein, parce que du coup, on passe vraiment du coq à l'âne en termes de sujet chez nous. Petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, pour pouvoir vraiment traiter ce sujet, il fallait absolument avoir autour de la table les opérateurs éoliens aussi, des chercheurs. Donc, on a identifié les chercheurs qui étaient les plus pertinents pour traiter de ces sujets. Donc la recherche, les opérateurs éoliens, les bureaux d'études aussi qui sont dans ce milieu-là, qui ont beaucoup de connaissances, l'État. Donc l'autorité sur les aspects réglementaires, parce que l'enjeu c'était que derrière il y ait ces connaissances. Donc là on est vraiment sur la production de connaissances, et l'idée c'était que ça éclaire la production de nouvelles réglementations environnementales, et notamment le cadrage des opérateurs privés. et les associations de défense de la biodiversité. Donc, on a petit à petit mis tout ce monde-là autour de la table. Donc, avec, voilà, là, on est vraiment sur de la concertation multi-acteurs. Ça a pris une ampleur importante. Moi, je n'avais pas que ce projet-là à accompagner. Il fallait à la fois que je coordonne le dispositif plus que je m'occupe des autres projets. Donc, à ce moment-là, on a recruté quelqu'un. Donc, voilà, on a trouvé des financements pour recruter quelqu'un pour continuer à incuber ce projet et qui est devenu maintenant la chargée de projet. Donc, c'est un projet où on a réussi à trouver environ 1 million d'euros de financement. Et qui est porté par la MSH Sud. Alors, il est porté par une UMR du site, mais il fallait que la chargée de projet soit neutre par rapport à la problématique, puisque vous l'avez compris, il y a des gros enjeux sur ce sujet de conflit d'intérêts et donc en fait de neutralité pour qu'il y ait une confiance dans le processus de concertation. La MSH était le seul acteur, ce lieu un peu tiers, un peu neutre par rapport à la problématique. Et donc, c'était une des conditions de faisabilité de ce projet, c'était que voilà, ce soit porté par la MSH pour qu'il y ait une confiance qui s'installe, etc. Donc, voilà, c'est un projet qui a démarré il y a un an, un peu moins d'un an, suite à une longue période d'incubation aussi et de recherche de financement. Et voilà, et qui est parti pour 5 ans de recherche là. Donc voilà, ça, c'est nos projets pilotes. Donc, c'était pas les plus simples. Et suite à ça, on a recueilli donc, d'autres demandes. Donc, c'est les demandes que vous pouvez voir là sur la diapositive. Donc, sur vraiment d'autres voilà, des sujets très différents. Donc, il y a eu pas mal de demandes spontanées et aussi des demandes du coup, qui ont été remontées via nos étudiants. Donc, on a commencé un peu à diversifier. Voilà, on a vraiment commencé sur, avec un ancrage très fort dans le milieu associatif, politique et de la recherche autour de l'agriculture, enfin de l'agroécologie. Et le deuxième projet, qui d'une ampleur assez conséquente, sur la biodiversité. Et donc, on a ouvert un petit peu nos thématiques avec des associations d'intervention sociale, donc sur la médiation de rue. Donc c'est pas tout à fait le, je vais pas rentrer dans le détail des sujets, mais c'est juste pour voir la diversité. Voilà, intervention sociale, la médiation de rue. Donc ça c'était pendant le Covid, ça a été compliqué en plus. Donc plus en lien avec des filières intervention sociale. On a eu un partenariat avec la MSH de Toulouse. Qui a lancé un projet pilote aussi sur ces questions sciences-société pour voir comment aussi avancer sur la structuration du dispositif d'accompagnement de projets sciences-société. Et on avait lancé avec eux et avec le Muséum d'histoire naturelle un projet pilote avec une demande qui venait d'un collectif citoyen, donc plutôt en santé publique, sur la lutte contre le moustique tigre avec toute une organisation citoyenne développée par cette association et avec l'envie de capitaliser sur ce qui a été fait, de prendre du recul. Et donc, pour ça, il y a une stagiaire qui a fait une étude de 6 mois sur cette initiative pour mieux valoriser ce qui a été fait, comment ça a été fait, les leviers de réussite, les difficultés rencontrées, etc. Puisque la métropole de Toulouse aussi s'intéressait de près à cette initiative. Et dans le cadre du projet pilote sur l'agroécologie, voilà, on a eu plusieurs études exploratoires. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait eu ce gros sujet sur les changements climatiques sur notre territoire. On a besoin d'en savoir plus. Donc là, on avait fait un atelier, comme je l'avais dit, et aussi un stage de médiation scientifique avec, en fait, comme livrable, la réalisation d'une exposition sur les changements climatiques dans la région. Bon, ça n'a pas pu être mené à terme, malheureusement. Et on a eu aussi des étudiants qui ont fait... donc ça, c'est complètement une autre demande. Ça nous est parvenu complètement différemment par donc cette association qui a développé l'Observatoire des cantines bio et locales. Et donc, on a des étudiants qui ont fait un espèce de hackathon, en fait, sur ce sujet. Donc, l'idée était de valoriser les données de l'Observatoire avec une approche, c'est un master communication et sciences des données pour valoriser l'Observatoire de cette association. Et puis en ce moment, du coup, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais est-ce que j'ai quand même juste d'autres. Voilà. Là, j'ai 10 projets en incubation sur la diapo. En vérité, on en a 13. On en a une partie de ces projets-là qui n'ont pas abouti. C'est-à-dire que l'association, finalement, n'a pas réussi à avoir une dynamique interne qui a permis d'aller au bout, de porter vraiment, parce qu'il faut quand même porter voilà, qui est quand même du répondant. Ils ne sont pas financés pour ça. Donc, ce n'est pas évident en termes de modèle économique, parfois, pour les associations, de rentrer dans des démarches d'incubation comme ça. Parfois, nous, on finance ce temps d'incubation chez les associations qui ont vraiment des problèmes de modèle économique et qui sont pourtant très très motivées et pour qui ces enjeux de recherche sont très structurants pour eux. Donc on va financer un petit peu de temps, comme le ferait l'appel à projet du fonds JEP Recherche que vous connaissez peut-être, qui est un appel à projet qui permet de financer du temps associatif pour augmenter les capacités de recherche. Voilà, donc on prend aussi voilà, le relais là-dessus quand on peut et quand c'est pertinent. Voilà, mais sinon, voilà, en termes de thématiques, on a aujourd'hui donc 13 projets qui sont en cours d'incubation à des stades très différents les uns des autres sur, voilà, ça peut être l'usage des drogues, l'accès au logement pour certains publics. Donc, on a deux projets sur l'accès au logement, par exemple, pour les femmes âgées issues de l'immigration qui ne parlent pas français dans les quartiers populaires. On a un projet sur l'accès au logement des personnes qui ont un long parcours, qui sont à la rue depuis longtemps et qui ont des troubles psychiatriques et qui, du coup, ont voilà, qui sont accompagnées avec des protocoles particuliers pour accéder au droit à l'autonomie, etc. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi une municipalité enfin, voilà, on a vraiment des projets tous plus passionnants les uns que les autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous avez des questions, on pourra revenir dessus. On a aussi une association qui nous a adressé une demande pour comprendre l'impact de la crise du Covid sur la prostitution étudiante à Montpellier, qui est une ville très étudiante. Ouais, sur la valorisation de l'urine humaine en agriculture avec des expérimentations en agronomie là-dessus, l'accompagnement des personnes âgées, enfin voilà, on passe vraiment du coq à l'âne en termes de thématiques, mais on est toujours dans ce projet scientifique, enfin, le projet de la MSH qui est de repenser notre modèle de développement face aux crises qu'on traverse. Ça, c'est les grandes étapes de notre création. Donc, j'en suis à combien de temps? Oui, j'ai quand même déjà pas mal parlé. Donc, je vous les présente dans les grandes lignes. Et si vous avez des questions ensuite sur vraiment la façon, enfin, les étapes qu'on a, voilà, sur comment on s'est créé, on pourra revenir dessus peut-être dans la discussion. Mais dans les grandes lignes, donc, on a organisé, enfin, l'AMSH a organisé en 2017 donc, les Assises nationales sciences-société. Auquel vous avez peut-être participé, je ne sais pas. Donc, c'est un événement de 3 jours, un événement national qui a été co-organisé avec l'ALIS. Et suite à ça, donc, non, en parallèle, en fait, à l'initiative, vraiment au tout début de ce projet de boutique des sciences, c'est une association montpelliéraine qui fait de la recherche participative dans le domaine de l'agroécologie, toujours, qui était en fin de. Enfin, qui à la fin d'un projet de recherche participative, faisait vraiment le constat alarmant de comment s'affranchir des financements sur projet pour être dans des dynamiques un peu plus pérennes de concertation entre la recherche et la société civile. Et donc, suite à ça, suite à ce constat, enfin, voilà, c'est très compliqué pour eux d'être toujours dans la recherche de financement. Il y a très peu de dispositifs de financement, finalement, qui sont vraiment adaptés avec des bons cadres pour favoriser ce type de collaboration. Bon, ça a bougé quand même, là, en 3 ans, c'est déjà assez fou comme ça a bougé. Mais à ce moment-là, c'était compliqué, etc. Donc, ils sont venus voir la MSHU en disant, voilà, il y a les boutiques des sciences qui nous intéressent pour pallier à ce manque. Est-ce que ça vous intéresse de monter une boutique des sciences? Nous, en parallèle, on était en train de faire les assises sciences-société, on connaissait du coup les boutiques des sciences de loin et d'autres types de dispositifs d'interface. Et du coup, petit à petit, on a fait une enquête de préfiguration, donc en partenariat avec cette association, pour voir quelles pouvaient être les attentes des acteurs ici, localement, sur la création d'une boutique des sciences, les attentes, les enjeux, etc. Donc, pour rassembler autour de ce projet, finalement. Et donc, on a fait un atelier scénario, donc début 2018, où on a rassemblé des associations, des étudiants, des chercheurs et des institutions. En financer, donc il y avait l'ADEME et puis des fondations etc. Et à part égale, donc on a fait un atelier scénario comme l'a fait Lille, je crois, Lyon peut-être, je ne sais pas exactement. Mais voilà, on a été accompagné par Sciences Citoyennes là-dessus. Et à partir de ça, on a pu construire notre projet stratégique en lien avec les acteurs locaux. Et en parallèle, on a mené toute une série d'ateliers et de consultations locales pour vraiment avoir un projet qui correspond aux attentes localement, qui prennent en compte les retours d'expérience de ce qui a été fait déjà ailleurs et depuis plusieurs années en Europe et en France. Et voilà. Et donc, on a lancé nos projets pilotes à ce moment-là. Et ensuite, on a, suite à ces projets pilotes qui ont commencé à se concrétiser, là, en 2019, c'est là qu'on a commencé à accueillir des étudiants pour aller faire ces enquêtes de recueil des demandes sociales. Donc là, on a eu une première vague de demandes qui nous sont parvenues par ces enquêtes. Et ensuite, l'an dernier, on a expérimenté. Alors on est toujours en pleine expérimentation. Hein. On invente un peu ce qu'on fait. Donc là, on a expérimenté l'an dernier le fait de travailler donc avec un comité de suivi de médiateurs qui accompagne les projets, parce que en fait, je suis la seule chargée de projet. Donc, je travaille avec un comité de pilotage, mais au niveau de l'accompagnement vraiment des projets, je suis la seule et du coup, on commençait à être sacrément limité. Et on commençait à être aussi de plus en plus reconnus localement et de plus en plus sollicités pour travailler avec nous sur ces questions de recherche participative, sans savoir trop comment impliquer tous ces savoir-faire qui existent et toutes ces personnes compétentes qui gravitaient autour de ces projets, de la MSH, etc. Et donc, on a créé ce comité. Donc ça, c'était les assises, l'atelier scénario, voilà. On a créé ce comité de suivi des projets qui fait partie, voilà, là, c'est un peu un schéma de notre gouvernance. Et donc, ce comité de suivi des projets, donc, qui existe depuis l'an dernier, là, c'est la deuxième édition cette année. C'est environ une quinzaine de personnes qui accompagnent les projets avec leur propre savoir-faire. Alors, en fait... Des savoir-faire en recherche participative, il y en a quand même déjà pas mal. En tout cas, on avait un bon réseau ici, donc à la fois dans le monde de la recherche, mais aussi dans le monde du tiers secteur de la recherche, donc dans le monde associatif, dans le monde des coopératives, des bureaux d'études, etc., qui ont des savoir-faire sur tout ce qui est autour de l'intelligence collective, pour employer un gros mot, mais dans l'accompagnement des processus de concertation, etc. Et donc, on a en gros moitié-moitié de la composition du comité qui est répartie entre des chercheurs qui ont une expérience en recherche-action participative et des associatifs qui ont ces savoir-faire de l'animation participative et qui ont en plus, soit ils sont... d'anciens doctorants, et donc du coup ils ont une connaissance du milieu de la recherche, soit ils travaillent déjà avec des chercheurs, donc ils sont dans ce champ large de l'intermédiation de recherche. Et donc on travaille avec eux pour... Du coup, moi, en fait, j'ai continué à animer, à accompagner certains projets, mais aujourd'hui, j'anime ce comité qui, lui, anime des projets. Donc on essaye d'être dans la co-construction méthodologique, parce que il y a une telle diversité de profils dans ce comité qu'on a beaucoup d'apports méthodologiques aussi qui sont intéressants. Et on fait des points régulièrement pour construire, échanger sur nos pratiques, se former mutuellement et aussi capitaliser sur ces savoir-faire du coup ensemble. Donc, on pourra revenir aussi sur le fonctionnement de ce comité, le fonctionnement de ce réseau, si vous le souhaitez. Et sinon, moi, ça fait 3 ans que je suis donc chargée de projet de Trade Union, en lien avec un comité de pilotage qui se réunit une fois par mois, qui est aussi une instance mixte entre associatifs, chercheurs, étudiants et la MSH, qui fait partie de ce comité de pilotage, mais qui a du coup une gouvernance propre. On se réunit chaque mois pour fixer les orientations à la fois stratégiques et opérationnelles dans la gestion opérationnelle. Donc là, l'objectif, ce serait l'année prochaine d'avoir 2 instances, parce que là, à la fois, d'être un comité de pilotage qui est vraiment qui est un peu mon équipe finalement, et qui est bénévole pourtant, de sur les aspects vraiment opérationnels, et d'avoir un comité, enfin on aimerait monter l'année prochaine un comité d'orientation stratégique avec les partenaires qui financent et qui ont voilà, une légitimité, une expertise pour fixer aussi le cap de ce dispositif. Et puis on a toute notre communauté voilà, d'étudiants, de porteurs de projets associatifs, de chercheurs qu'on peut mobiliser. Donc on s'appuie évidemment beaucoup sur les réseaux, en tout cas en ce qui concerne le monde académique de la MSH Sud, et sa particularité d'être portée par à la fois le CNRS et plusieurs universités localement. Donc, ce réseau qui est très, très pluridisciplinaire et interinstitutionnel, donc qui est très intéressant comme, pour le portage de ce dispositif, puisque les demandes sociales que l'on reçoit sont par nature assez interdisciplinaires. Voilà, donc on pourra revenir sur nos partenariats. Et là, voilà, j'ai fait une liste de pistes, de choses à approfondir dans la discussion, si ça vous intéresse. Mais j'imagine que vous avez des questions, donc on va plutôt partir sur vos questions. Et puis, si besoin, je reviendrai sur ces éléments-là. Voilà, j'ai été un peu longue, mais comme on a le temps, du coup, je me suis permise de prendre ce temps.